Chapitre 7. Aux précédentes considérations, peut-être convient-il d'ajouter la suivante. Jusqu'ici, notre point de départ n'a été pris ni dans l'objet ni dans le sujet, mais dans la représentation, phénomène où ces deux termes sont déjà contenus et impliqués. Le dédoublement en objet et sujet est, en effet, la forme privative essentielle et commune à toute représentation. C'est uniquement cette dernière que nous avons envisagée. Ensuite, renvoyant pour le fond des idées à notre précédente étude, introduction naturelle de ce livre, nous avons passé en revue les autres formes, temps, espace et causalité qui dépendent de la première. Ces formes appartiennent proprement à l'objet en tant qu'objet, mais celui-ci à son tour est essentiel au sujet en tant que sujet. Il en résulte que le temps, l'espace et la causalité peuvent aussi bien être dérivés du sujet, et connus a priori. À ce point de vue, ils représentent la limite commune du sujet et de l'objet. Toutes ces formes se laissent d'ailleurs ramener à une commune expression, le principe de raison, ainsi que je l'ai exposé en détail dans ma dissertation, préambule nécessaire du présent ouvrage. C'est par cette conception nouvelle que mes vues diffèrent absolument des théories philosophiques émises jusqu'ici. Ces doctrines, partant toujours soit de l'objet, soit du sujet, s'efforçaient ensuite d'expliquer l'un par l'autre au nom du principe de raison. Pour moi, au contraire, je soustrais à la juridiction de ce principe le rapport du sujet et de l'objet, et ne lui laisse que l'objet. On pourrait croire que cette répartition des systèmes en deux catégories opposées laisse échapper la philosophie qui a paru de nos jours sous le nom de philosophie de l'identité. Celle-ci, en effet, ne prend, à vrai dire, son point de départ ni dans l'objet, ni dans le sujet, mais dans un troisième principe, l'absolu, révélé par une intuition rationnelle, principe qui n'est ni objet ni sujet, mais identité des deux. Certes, je n'oserais me permettre d'avoir un avis ni sur cette auguste identité, ni sur l'absolu lui-même, dépourvu que je suis de toute intuition rationnelle. Je hasarderai pourtant un jugement qui m'est suggéré par les propres déclarations des partisans de cette intuition rationnelle, car ce sont là choses accessibles même aux profanes. Je prétends que la dite philosophie n'est pas affranchie de la double erreur signalée dans la précédente opposition. Cette identité prétendue du sujet et de l'objet, identité qui se dérobant à la connaissance est découverte seulement par une intuition intellectuelle ou par une absorption dans le sujet-objet, n'empêche pas la philosophie en question d'être frappée de la double erreur signalée plus haut qu'elle présente sous les deux formes opposées. Elle se divise en effet elle-même en deux écoles. L'une, l'idéalisme transcendantal, ou doctrine du « moi » de Fichte, qui, au nom du principe de raison, tire l'objet du sujet, comme un fil qu'on déviderait peu à peu. L'autre, qu'est la philosophie de la nature, fait sortir par degrés le sujet de l'objet par une méthode dite de construction. Si je juge de cette construction, où j'avoue ne pas voir très clair, par le peu que j'en saisis, elle me paraît être une marche progressive réglée sous des formes diverses par le principe de raison. Je renonce d'ailleurs à pénétrer la science profonde que contient cette philosophie. Dépourvu que je suis de toute intuition rationnelle, toute doctrine qui suppose une telle intuition est pour moi un livre scellé des sept sceaux. Et cette incapacité va si loin que, chose plaisante à avouer, ces enseignements d'une si grande profondeur me font toujours l'effet d'énormes gasconnades, terriblement assommantes par-dessus le marché. Les systèmes qui prennent dans l'objet leur point de départ traitent en général le problème du monde et de ses lois d'après les données de l'intuition. Toutefois, la base de leur spéculation n'est pas toujours ce monde lui-même, ou son principe premier, la matière. Il vaut mieux, je crois, pour cette raison, répartir ces systèmes dans les quatre classes que j'ai distinguées dans ma dissertation. à la première, adoptant comme principe le monde réel, appartiendraient Thalès et les Ioniens, Démocrite, Épicure, Giordano Bruno et les matérialistes français. À la seconde, qui prend pour point de départ la notion toute abstraite de substance, réalisée seulement dans la définition qu'on en donne, se rattacherait Spinoza, et avant lui les Éléates. La troisième classe, qui choisit comme donnée première le temps ou le nombre, comprendrait les pythagoriciens et la philosophie chinoise du Yang-Hing. Enfin, dans la quatrième, pour laquelle le premier principe est un acte libre motivé par l'entendement, viendraient se ranger les scolastiques qui professent la doctrine d'une raison ex nihilo résultant de la volonté d'un être personnel distinct du monde. La philosophie objective, lorsqu'elle se présente sous la forme du matérialisme pur, est au point de vue de la méthode la plus conséquente de toutes, celle dont le développement peut être le plus complet. Ce système pose d'abord l'existence absolue de la matière, et par suite celle de l'espace et du temps, supprimant ainsi le rapport de la matière avec le sujet, rapport où, cependant, la matière puise son unique réalité. Puis, appuyé sur la loi de causalité, qu'il prend pour un ordre de choses en soi, pour un veritas aeterna, il poursuit sa marche, sautant encore par-dessus l'entendement dans lequel et par lequel seule la causalité existe. Cela fait, il cherche à découvrir un état primitif et élémentaire de la matière, dont il puisse tirer, par un développement progressif, tous les autres états, depuis les propriétés mécaniques et chimiques jusqu'à la polarité, la vie végétative et enfin l'animalité. Si l'on suppose l'entreprise couronnée de succès, le dernier anneau de la chaîne sera la sensibilité animale ou la connaissance, qui apparaîtra ainsi comme une simple modification de la matière, modification produite en vertu de la causalité. Admettons que nous ayons pu suivre jusqu'au bout et sur la foi des représentations intuitives, l'explication matérialiste. Une fois arrivés au sommet, ne serions-nous pas pris soudain de ce rire inextinguible des dieux de l'Olympe? Lorsque nous éveillons comme d'un songe, nous verrions tout à coup cette découverte inattendue. Que le dernier résultat, si péniblement acquis, la connaissance, était déjà implicitement contenue dans la donnée première du système, la simple matière. Ainsi, lorsque nous nous imaginions avec le matérialisme penser la matière, ce que nous pensions en réalité, c'était le sujet qui se la représente, l'œil qui l'aperçoit, la main qui la touche, l'esprit qui la connaît. Alors se révèle cette étonnante pétition de principe de la doctrine, où le dernier anneau apparaît inopinément comme le point d'attache du premier. C'est une chaîne sans fin, et le matérialiste ressemble au baron de Münchhausen qui, se débattant dans l'eau, monté sur son cheval, l'enlève avec ses jambes et s'enlève lui-même par la queue de sa perruque ramenée en avant. L'absurdité intrinsèque du matérialisme consiste donc à prendre comme point de départ un élément objectif qu'il engendre finalement au terme de ses explications. Cet élément objectif, il le voit soit dans la matière considérée in abstracto, comme pure idée, soit dans la matière déjà revêtue de sa forme propre et telle qu'elle est donnée dans l'expérience, par exemple les corps simples de la chimie avec leur combinaison élémentaire. Telle est la réalité qu'il pose comme existant en soi et absolument, pour en faire sortir ensuite l'organisation et à la fin le sujet pensant. Il se flatte d'en donner ainsi une explication aussi complète que possible. La vérité est que toute existence objective est déjà, d'une manière ou de l'autre, conditionnée en tant qu'objet par le sujet et ses formes, qu'elle se trouve toujours contenir implicitement. Elle disparaît donc si, par la pensée, on supprime le sujet. Le matérialisme est un effort pour expliquer par des données médiates ce qui est donné immédiatement. Il considère la réalité objective, étendue, active, en un mot matériel, comme un fondement si solide que ses explications ne laissent rien à désirer, du moment qu'elles sont appuyées sur un tel principe, corroboré lui-même par la loi de l'action et de la réaction. Or, cette prétendue réalité objective est une donnée purement médiate et conditionnée. Elle n'a donc qu'une existence toute relative. La chose, en effet, a dû passer tout d'abord par le mécanisme du cerveau et être transformée par lui, entrer ensuite dans les formes de l'entendement, temps, espace, causalité, avant d'apparaître, grâce à cette dernière élaboration, comme étendue dans l'espace et agissant dans le temps. Et c'est par une donnée de cette nature que le matérialisme se flatte d'expliquer la donnée immédiate de la représentation, sans laquelle la première ne saurait exister. Que dis-je? La volonté elle-même, tandis que c'est elle, au contraire, qui rend intelligibles toutes ces forces primitives dont les manifestations sont réglées par la loi de causalité. À cette affirmation que la pensée est une modification de la matière, il sera toujours permis d'opposer l'affirmation contraire, que la matière est un simple mode du sujet pensant, autrement dit, une pure représentation. Il n'en est pas moins vrai que le but réel et la forme idéale de toute science naturelle est une explication matérialiste des choses, poussée aussi loin que possible. Or, de l'inintelligibilité reconnue du matérialisme résulte une autre vérité qui sera l'objet de considérations ultérieures. C'est qu'aucune science, au sens exact du mot, je veux dire un ensemble de connaissances systématisées à l'aide du principe de raison, n'est propre à fournir une solution définitive ni une explication entière de la réalité. La science, en effet, ne saurait pénétrer jusqu'à l'essence intime du monde. Jamais elle ne dépasse la simple représentation, et au fond, elle ne donne que le rapport entre deux représentations. Toute science repose sur deux données fondamentales. La première, le principe de raison, sous une quelconque de ses formes, servant de principe régulateur. La seconde, l'objet même qu'elle étudie et qui se présente toujours à l'état de problème. C'est ainsi que la géométrie a pour problème spécial l'espace et pour règle la loi d'existence dans l'espace, que l'arithmétique a pour problème le temps et pour règle la loi de l'existence temporelle. Le problème de la logique porte sur les rapports des concepts purs. Elle a pour règle la loi d'intelligibilité. Le problème de l'histoire, ce sont les actes humains considérés dans leur ensemble. Sa règle est la loi de motivation. La science de la nature, enfin, a pour problème la matière et pour règle la loi de causalité. Le but dernier de la science est donc de ramener l'un à l'autre, au nom de la causalité, tous les états de la matière qu'elle s'efforce de réduire finalement à un état unique. Ensuite, de les déduire les uns des autres, et même d'un seul, une fois arrivé au terme de ses recherches. La matière apparaît ainsi sous deux formes, qui sont comme les extrémités opposées de la science. La première, où elle représente l'objet le moins immédiat. La dernière, l'objet le plus immédiat du sujet pensant. En d'autres termes, la matière à l'état le plus inerte et le plus informe, c'est la substance primitive d'une part, et de l'autre, l'organisation humaine. La science de la nature, sous le nom de chimie, traite de la première. Sous le nom de physiologie, elle étudie la seconde. Mais jusqu'à ce jour, ni l'un ni l'autre de ces deux extrêmes n'a pu être atteint. C'est seulement entre les deux limites opposées qu'on est arrivé à quelques certitudes. Et les perspectives que peut ouvrir l'avenir de la science sont assez peu encourageantes. Les chimistes supposent que la division qualitative de la matière ne saurait aller à l'infini, comme sa division quantitative. Dans cet espoir, Il cherche à restreindre de plus en plus le nombre des corps simples, dont il compte encore une soixantaine. En admettant qu'il les eussent ramenés à deux, et voudrait finalement les réduire à un seul. La loi d'homogénéité conduit en effet à l'hypothèse d'un état chimique primordial de la matière, qui seul lui appartiendrait en propre, ayant précédé tous les autres. Ceci ne lui serait pas essentiel, au même titre, et on y devrait voir que des formes ou propriétés qu'elle peut revêtir accidentellement. Mais maintenant, comment concevoir que ce premier état ait jamais pu se modifier chimiquement, puisqu'il n'en existait pas un second pour agir sur lui? Cette difficulté est analogue en chimie à celle où Épicure vint se heurter en mécanique, lorsqu'il lui fallut expliquer la première déviation produite dans le mouvement initial du premier atome. Cette contradiction, qui surgit d'elle-même, pour ainsi dire, et qu'il est aussi impossible d'éviter que de résoudre, constitue une véritable antinomie chimique. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs, à se présenter à cette extrémité de la science de la nature. À l'autre extrémité apparaît une antinomie correspondante. Il n'y a pas plus d'espoir d'atteindre le point d'arrivée de la science que d'en trouver le point de départ. Car l'impossibilité est de plus en plus évidente, soit de ramener un phénomène chimique à un phénomène purement mécanique, soit un état organique à une propriété chimique ou électrique. Les savants qui recommencent aujourd'hui à s'engager dans cette antique voie d'erreur se verront bientôt obligés de rebrousser chemin, tête basse et sans mot dire, absolument comme leurs devanciers. Mais cette question sera plus amplement développée au livre suivant. C'est sur son propre terrain que la science de la nature rencontre les difficultés que je signale ici en passant. Érigée en philosophie, elle se présente en outre comme une explication matérialiste des choses. Or, nous avons vu qu'à peine né, le matérialisme porte dans son sein un germe de mort. Il supprime en effet le sujet et les conditions formelles de la connaissance. Implicitement contenu, et dans la matière purement inerte dont il prétend partir, et dans la matière organisée où il s'efforce d'arriver. Il n'y a point d'objet sans un sujet. Tel est le principe que condamne à tout jamais le matérialisme. Des soleils et des planètes, sans un œil pour les voir, sans une intelligence pour les connaître. Ce sont des paroles qu'on peut prononcer, mais qui représentent quelque chose d'aussi intelligible qu'un morceau de fer en bois. Sidéroxylone. Cependant, la loi de causalité et les études sur la nature, auxquelles elle sert de principe régulateur, nous conduisent à cette conclusion certaine que, dans l'ordre du temps, tout état plus parfait de la matière a dû être précédé d'un autre moins parfait. Par exemple, que les animaux ont existé avant l'homme, les poissons avant les animaux qui vivent sur Terre, et avant eux les végétaux. Enfin, que, d'une manière générale, le règne inorganique a été antérieur au règne organique. La matière primitive a donc dû subir une longue série de transformations avant que le premier œil ait pu s'ouvrir. Pourtant, c'est bien de ce premier œil, une fois ouvert, fût-ce celui d'un insecte, que tout l'univers tient sa réalité. Cet œil était, en effet, l'intermédiaire indispensable de la connaissance, pour laquelle et dans laquelle seul le monde existe, sans laquelle il est impossible même de le concevoir. Car le monde n'est que représentation, et, par suite, il a besoin du sujet connaissant comme support de son existence. Il y a plus. Cette longue série de siècles remplis de transformations sans nombre et pendant lesquelles la matière s'est levée de forme en forme jusqu'au premier être doué de perception, tout ce temps écoulé ne saurait être pensé que dans l'identité d'un sujet conscient. Il n'est en effet que la série des représentations de ce dernier et la forme de sa connaissance. Sans lui, il perd toute intelligibilité et toute réalité. Nous voyons donc que, d'une part, l'existence du monde entier dépend du premier être pensant, quelque imparfait qu'ait été cet être. D'autre part, il n'est pas moins évident que ce premier animal suppose nécessairement avant lui une longue chaîne de causes et d'effets dont il forme lui-même un petit anneau. Ces deux résultats contradictoires auxquels nous sommes forcément amenés pourraient à leur tour être regardés comme une antinomie de notre faculté de connaître, correspondant à celle qui se présente à l'autre extrémité de la science de la nature. Pour ce qui est de la quadruple antinomie de Kant, elle sera étudiée dans la critique de sa philosophie qu'on trouvera à la suite du présent ouvrage. J'espère montrer qu'elle est une pure fantasmagorie sans aucune consistance. La dernière contradiction à laquelle nous avons été conduits nécessairement est cependant résolue par la considération suivante. On peut dire, en parlant le langage de Kant, que le temps, l'espace et la causalité appartiennent non à la chose en soi, mais aux phénomènes dont ils sont la forme, ce qui peut se traduire dans la terminologie que j'adopte, le monde objet ou le monde comme représentation n'est pas la seule face de l'univers, il n'en est pour ainsi dire que la superficie. Il y a en outre la face interne, absolument différente de la première, essence et noyau du monde et véritable chose en soi. C'est elle que nous étudierons dans le livre suivant et que nous désignerons sous le nom de volonté. La volonté étant l'objectivation la plus immédiate du monde. Le monde, comme représentation, le seul qui nous occupe ici, n'existe à proprement parler que du jour où s'ouvre le premier œil. Il ne saurait en effet sortir du néant où il était plongé que par le moyen de la connaissance. Auparavant, sans cet œil, c'est-à-dire en dehors de toute pensée, aucun temps, aucune antériorité n'était possible. Il n'en résulte pas que le temps ait commencé, puisqu'au contraire tout commencement est en lui. Mais il est, comme on sait, la forme la plus générale de la connaissance, forme dans laquelle viennent se grouper, suivant la loi de causalité, tous les phénomènes. Par suite, il existe dans sa double infinité dès la première connaissance. Et en effet, le phénomène qui remplit ce premier présent est nécessairement rattaché par un lien de causalité à une série infinie de phénomènes dans le passé. Ce passé est d'ailleurs conditionné par ce premier présent qu'il conditionne lui-même en tant que présent. Ainsi, le passé, aussi bien que le premier présent qui en sort, dépendent l'un de l'autre du sujet pensant, sans lequel il ne serait rien. Toutefois, c'est ce passé qui empêche le présent en question d'apparaître comme véritablement premier, comme s'il n'avait derrière lui aucun passé qui l'eût engendré, comme s'il était en un mot l'origine même du temps. Il semble, au contraire, succéder nécessairement à un passé, et cela d'après la loi d'existence dans le temps, absolument comme le phénomène qui le remplit dérive, selon la loi de causalité, d'états antérieurs qui se sont produits dans ce passé. On pourrait, pour les amateurs d'apologues mythologiques, plus ou moins ingénieux, comparer le commencement du temps, qui pourtant n'a pas commencé, à la naissance de Cronos, le plus jeune des titans, lequel, ayant émasculé son père, mit fin aux productions monstrueuses du ciel et de la terre, remplacé bientôt par la race des dieux et des hommes. Ce développement, à l'occasion du matérialisme, le plus conséquent des systèmes philosophiques qui partent de l'objet, a encore l'avantage de bien faire ressortir l'étroite dépendance du sujet et de l'objet l'un à l'égard de l'autre. Il montre aussi leur invincible contradiction. Un tel résultat nous conduit à rechercher l'essence intime du monde comme chose en soi, non plus dans l'un des deux termes extrêmes de la représentation, mais dans un élément qui en diffère de tout point et ne soit pas frappé de cette contradiction primitive et radicale, aussi bien qu'insoluble. En regard de la philosophie qui part de l'objet pour en déduire le sujet, nous rencontrons la doctrine opposée, qui prend pour principe le sujet et s'efforce d'en tirer l'objet. Mais si la première a été jusqu'à nos jours représentée par de nombreux systèmes, il n'existe guère de la seconde qu'un spécimen unique et tout récent. C'est la doctrine de Fichte, si on peut appeler ça une doctrine. À ce point de vue, au moins, elle mérite d'être signalée, quoique faible d'ailleurs qu'en soit la valeur intrinsèque. Au fond, c'est là une philosophie pour rire. Toutefois, débitée de l'air le plus grave et sur le ton le plus sérieux du monde, défendue, il faut le dire aussi, avec une ardeur et une éloquence peu communes contre d'assez pauvres adversaires, elle a pu un moment éblouir et faire illusion. Mais ce sérieux de la pensée, qui a franchi de toute influence étrangère, vise imperturbablement un but unique, la vérité. Fichte en était tout à fait dépourvu, comme le sont en général les philosophes, c'est pareil, qui se laissent façonner par les circonstances. Comment pourrait-il être autrement? C'est par l'effort tenté pour se délivrer de quelques doutes qu'on devient philosophe. Vérité que Platon exprime en disant que l'étonnement est le sentiment philosophique par excellence. Mais ce qui distingue en cela les vrais philosophes des faux, c'est que chez les premiers, le doute naît en présence de la réalité elle-même. Chez le second, il naît simplement à l'occasion d'un ouvrage, d'un système, en présence duquel il se trouve uni. Tel a été précisément le cas de Fichte. Il n'est devenu philosophe qu'à propos de la chose en soi de Kant. Sans elle, il se fût livré vraisemblablement à d'autres occupations, où il n'eût pas manqué de mieux réussir avec son remarquable talent de parole. S'il avait pénétré un peu plus profondément le sens du livre qu'il avait fait philosophe, La critique de la raison pure, il eût compris que le véritable esprit de la doctrine est dans la pensée suivante. Pour Kant, le principe de raison n'est pas, comme pour la scolastique, une veritas aeterna, possédant une portée absolue, indépendante de l'existence du monde, antérieure et supérieure à lui. Il n'a qu'une autorité conditionnelle et relative, valable seulement dans l'ordre phénoménal, quelle que soit d'ailleurs la forme que revêt ce principe. Qu'il se présente comme liaison nécessaire dans le temps et dans l'espace, comme loi de causalité ou comme règle de connaissance. Fichte se fut alors aperçu que ce n'est pas sur la foi du principe de raison que peut être découverte l'essence intime du monde, la chose en soi, qu'on ne saurait atteindre ainsi qu'un élément également relatif et conditionné, le phénomène, jamais le noumène. Il eut vu en outre que ce principe ne s'applique nullement au sujet, mais représente seulement la forme des objets, lesquels par suite ne peuvent être pris pour des choses en soi. Qu'enfin, le sujet est posé en même temps que l'objet, et réciproquement. Par suite, l'objet ne peut avoir pour antécédent le sujet, et en sortir comme de sa cause. Inversement, il est impossible de voir dans le sujet un conséquent et un effet de l'objet. Mais rien de tout cela n'est entré dans l'esprit de Fichte. Le seul côté de la raison qui l'ait frappé a été le choix du sujet comme point de départ de la philosophie. Cette marche avait été adoptée par Kant pour bien montrer l'impossibilité de partir de l'objet, qui se transformerait alors en chose en soi. Mais Fichte a pris la méthode pour la doctrine même à établir, pour le fond du débat. Comme tous les imitateurs, il s'est figuré qu'en renchérissant sur son maître, il parviendrait à le dépasser. Et il a dans cette voie réédité les erreurs commises en sens inverse par l'ancien dogmatisme et qui avaient précisément suscité la critique kantienne. Si bien qu'aucun changement essentiel n'était dès lors apporté en philosophie. Après comme avant, l'antique erreur fondamentale de la métaphysique, la supposition d'un rapport de cause à effet entre l'objet et le sujet, demeurait intacte. Le principe de raison conservait toujours son autorité absolue. La seule différence, c'est que la chose en soi, au lieu de résider, comme autrefois, dans l'objet, se trouvait maintenant représentée par le sujet. le caractère purement relatif des deux termes qui fait que la chose en soi, c'est-à-dire la nature intime du monde, doit être cherchée en dehors de ceux-ci et non pas en eux, et qui empêche toute réalité conditionnée de représenter la chose en soi. Ce caractère fut de nouveau méconnu, tout comme avant la critique kantienne. On eût dit que Kant n'avait jamais existé, le principe de raison étant resté pour Fichte, absolument comme pour les scolastiques, une veritas aeterna. De même qu'au-dessus des dieux de l'Antiquité régnait l'éternel destin, ainsi le dieu des scolastiques est soumis à ses vérités éternelles, vérités métaphysiques, mathématiques et métallogiques, et aussi chez quelques-uns à l'autorité de la loi morale. Ces vérités elles-mêmes ne dépendaient de rien. C'est au contraire en vertu de leur nécessité que Dieu, aussi bien que le monde, se trouvait exister. De même, c'est au nom du principe de raison, mis par Fichte au nombre de ces veritas aeternae, que le moi est la cause du monde, du non-moi, de l'objet qui devient alors son effet et sa production. Il a eu garde d'étudier et de contrôler de plus près le principe de raison. S'il me fallait déterminer la forme de ce principe à laquelle Fichte a recours pour faire engendrer le non-moi par le moi, comme l'araignée tire d'elle-même sa toile, je dirais que c'est la loi d'existence dans l'espace. Il est nécessaire en effet de rattacher à cette loi toutes les déductions si pénibles qui représentent les procédés par lesquels le moi produit et crée de sa propre substance le non-moi. À cette condition seulement, ces déductions qui remplissent le livre le plus extravagant et par suite le plus insipide qu'on ait jamais écrit, prennent une ombre de sens et une apparence de valeur. La philosophie de Fichte, qui, à tout autre point de vue, ne mérite aucune attention, n'a d'intérêt que par le contraste absolu qu'offre cette doctrine toute récente avec l'antique matérialisme. De même que ce dernier était le plus conséquent des systèmes qui prennent l'objet comme point de départ, ainsi la conception de Fichte est la plus rigoureuse de toutes celles qui adoptent pour premier principe le sujet. Le matérialisme ne s'aperçoit pas qu'en posant le plus simple objet, il pose par là même le sujet. De son côté, Fichte n'a pas pris garde qu'avec le sujet, de quelque nom qu'il l'appela, était posé l'objet sans lequel le sujet est inconcevable. De plus, toute déduction a priori, et en général toute démonstration, repose sur une nécessité, et toute nécessité sur le principe de raison. Exister nécessairement ou résulter d'une cause donnée sont deux notions équivalentes. Enfin, le principe de raison n'étant en réalité que la forme générale de l'objet, considéré comme tel, ce principe contient déjà implicitement l'objet, n'ayant d'ailleurs aucune valeur antérieurement à l'existence de l'objet, ou en dehors de celui-ci, il ne saurait l'engendrer et le construire par une application légitime. En résumé, le vice commun de la philosophie subjective, aussi bien que de la philosophie objective, c'est d'impliquer d'avance ce que chacune prétend déduire ensuite, le corrélatif nécessaire du principe adopté. La marche de ma pensée se distingue auto-générée de ces deux observations opposées, voici comment. Je ne pars ni du sujet ni de l'objet pris séparément, mais du fait de la représentation qui sert de point de départ à toute connaissance et a pour forme primitive et essentielle le dédoublement du sujet et de l'objet. À son tour, la forme de l'objet est représentée par les divers modes du principe de raison, et chacun d'eux règle si parfaitement la classe de représentation placée sous son autorité qu'il suffit de posséder le principe pour avoir en même temps l'essence commune à la classe tout entière. Cette essence, en effet, envisagée comme représentation, consiste uniquement dans la forme même du principe. Ainsi, le temps n'est que le principe d'existence au point de vue de la durée, c'est-à-dire la succession. L'espace n'est que le principe de raison déterminé par rapport à l'étendue, autrement dit la position. La matière n'est autre chose que la causalité. Le concept, comme nous le verrons bientôt, est tout ce qui tient du principe de connaissance. Cette relativité essentielle et constante du monde considéré comme représentation, relativité inhérente à sa forme générale, sujet et objet, tout aussi bien qu'à la forme dérivée de cette dernière, principe de raison, ce caractère, dis-je, démontre la nécessité de chercher ailleurs que dans l'univers lui-même et dans toute autre chose que la représentation, l'essence intime du monde. Le livre suivant établira que cette essence réside dans un élément qui apparaît avec non moins d'évidence que la représentation chez tout être vivant. Mais nous avons à considérer auparavant cette classe de représentations qui appartiennent exclusivement à l'homme et dont la forme commune est le concept. La faculté à laquelle elle se rapporte dans le sujet est la raison. De même que la sensibilité et l'entendement, propres à tout animal, se rapportent aux représentations étudiées jusqu'ici.